Cet enregistrement est hébergé sur Notes du Mont Royal dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.
La question de l'un chez Héraclite. Héraclite, 544, 504 avant Jésus-Christ. Nous savons très peu de choses de sa vie, si ce n'est qu'il appartenait à une très illustre famille aristocratique d'Éphèse. De caractère ombrageux, il aurait gardé une sorte de dédain à l'égard des hommes, comme un témoignage, comme en témoignent d'ailleurs certains fragments que l'on a gardés de son œuvre, où il fustige les mœurs politiques de ses concitoyens. Son œuvre est connue grâce à quelques fragments difficilement compréhensibles, d'où sa réputation de grande obscurité, au point qu'il fut nommé l'obscur, le Scotainos. Telle était sa réputation quand son livre était encore conservé et dont nous ne possédons aujourd'hui que des fragments réunis par Herman Diels, un grand spécialiste. Sa pensée, donc, souvent on l'a résumée en disant qu'elle... À partir de ce célèbre fragment, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. On l'a présenté comme un philosophe du devenir. En vérité, il s'est donné la mission de chercher l'unité, justement, de ce qui devient, comme tous les présocratiques et comme tout philosophe authentique, finalement. Une unité qui rend compte des contradictions de ce monde changeant. Il est à la recherche du principe unificateur de tout ce qui s'oppose dans ce monde multiple et mouvant, et il en cherche le secret de l'intelligibilité. Car tel est bien le ressort de la recherche philosophique, atteindre, aller à la source de l'intelligibilité. Et la source de cette intelligibilité, ce sera justement le logos, au sens grec du terme, sens multiple, mais donc la raison, la source d'intelligibilité, le logos, donnons-lui ce sens le plus large, et ce logos qui doit s'exprimer à travers la parole du philosophe. Et c'est ainsi que, et c'est le sens que prend ce fragment, le fragment 50. Si ce n'est pas moi, mais le logos que vous écoutez, il est sage de reconnaître que tout est un. Nous retrouvons encore ici cette aspiration à l'unité. Intéressant, ce lien entre l'unité et la totalité. Donc ceux qui ont entendu, non moi, mais le logos, dit-il, sont d'accord que la sagesse, c'est un et tout. Le logos, donc, apparaît comme le principe de toute chose, de tout ce qui est. Mais en même temps, sans être aucune de ces choses. Et c'est comme vous souvenez, la Peyronne, n'est-ce pas, qui est à la source de cette totalité, à la source de l'intelligibilité de ce tout, finalement. Et c'est pourquoi, en sa profondeur, on ne saurait atteindre ce logos, d'où le sens de ce fragment 45. C'est ce qu'exprime le fragment 45. Tu ne saurais atteindre les limites de l'âme, aussi loin que te porte ta route, tellement est profond le logos qu'elle abrite. C'est intéressant de voir comment dans l'homme, il y a, n'est-ce pas, ce fond, hein, qui fonde, hein, la recherche, qui est le lieu où L'intelligence naît à elle-même, hein, pour saisir le sens, la vérité des choses. Voilà. Le drame de la condition humaine pour Héraclite est que bien, je cite, « bien que le logos soit commun à tous, la plupart vivent comme s'ils possédaient une pensée particulière. » Ça veut dire que les hommes ne comprennent pas le logos éternel et unificateur. Donc, nous l'avons vu, la pensée à son éveil se trouve face au problème de l'un et du multiple. Et c'est à ce problème qu'Héraclite d'Éphèse s'est attelé à son tour. Le philosophe Heidegger, qui a mis peu en avant l'importance des philosophes présocratiques et dont il s'inspire, se demande si Héraclite, appelé l'obscur, n'est pas plutôt une pensée claire, ne nous livre pas plutôt une pensée claire, à savoir une pensée qui fait l'unité. Sa pensée, en vérité, affirme que les contraires s'accordent en s'opposant et que le jeu de leur opposition constitue l'unité de la totalité. Donc voilà la clarté qu'il s'agit de saisir, par laquelle il faut se laisser éclairer pour comprendre la pensée d'Héraclite. Car en effet, pour Héraclite, comme pour tout, toute intelligence qui s'éveille au contact du réel, le premier constat, la première expérience est que ce réel, ce me, change. Et s'il change, Héraclite ira très, très loin dans la perception de ce changement, en disant que si tout change, ce qui est chaud, cesse d'être chaud, ça devient donc du non-chaud. Donc le chaud, pour être chaud, doit être du non-non-chaud. D'où le jeu des contraires comme une guerre, un polémos, qui ne peuvent subsister l'un sans l'autre, mais qui ne peuvent être que l'un sans l'autre. On verra ce que cela signifie, cette guerre des contraires, et ce qui permet en même temps à la fois d'opposer et de relier. Et vous souvenez que la question souveraine qui se pose concernant le rapport entre l'un et le multiple, et précisément comment ceux qui se séparent, n'est-ce pas, se séparent définitivement pour se perdre dans une division sans fin et chaotique, ou alors se séparent mais sans oublier de se relier. Ou plus précisément, c'est la distance qui relie, la distance entre ce qui s'oppose et ce qui relie. Bon, nous allons y revenir. « Ce qui lutte avec soi-même, dit le fragment 51. Je ne cite pas le grec parce que nous n'avons pas le temps, mais peu importe ici. « Ce qui lutte avec soi-même peut s'accorder. L'harmonie du monde est par tension opposée, comme pour la lyre et pour l'arc. » Donc, ce qui s'oppose doit s'accorder. Donc dans une unité, finalement, dans une harmonie, voilà, qui est un changement de côté. C'est comme l'acte de tourner, d'aller et venir. Et il donne l'exemple de l'arc et de la lyre, le jeu de s'opposer, d'accorder et de s'opposer. Héraclite donc a compris que ce qui est n'est que par la négation de son contraire, le non-non-chaud. Un contraire doit nier son contraire pour s'affirmer. D'ailleurs, le mot guerre, le mot combattre, signifie se battre avec. On ne se bat pas seul. Ainsi, le polémos, la guerre,
est le père de toutes choses. La nature, la physis, est le théâtre de cet affrontement, de cette guerre entre les contraires, qui ne peuvent vivre ensemble et qui ne peuvent vivre l'un sans l'autre. C'est intéressant. Quand l'un paraît, l'autre disparaît. Telle est la signification du fragment fameux « La nature aime à se cacher ». Oui, puisque la nature est l'ensemble de tous ces contraires qui, n'est-ce pas, se rejoignent en se séparant, c'est-à-dire vivant, sont ensemble, mais non, mais en luttant, un contraire est indissociable de son contraire, mais il ne peut coïncider avec lui. C'est une profondeur de pensée ici. Pour Héraclite, la nature aime à se cacher au sens où un contraire voile l'autre, au sens où le polémos, la guerre entre les contraires, donc, est à la source de, est le père, quoi, de toute chose qui s'oppose. La guerre, dit-il, est le père de toute chose, le roi de toute chose. Fragment 53. Ainsi, donc, le chaud est du non-non chaud. Un contraire ne se montre jamais à son contraire. Tout ce qui est donc est désappropriation et réappropriation de soi. En d'autres termes, un contraire se plaît à se cacher de son contraire. La foudre, dit Héraclite, gouverne l'univers. Ainsi, la totalité de ce qui est naît de ce feu, n'est-ce pas, qui brûle tout ce qui touche, telle une flamme, mais telle une flamme qui s'allume et se rallume au moment où elle allait s'éteindre. Et c'est ainsi que le feu devient une métaphore pour parler de ce logos qui explique le monde comme mouvement permanent allant d'un contraire à l'autre. Penseur profond. Héraclite voit ainsi dans le feu qui consume tout l'élément primordial à l'origine de tout ce qui naît et périt, de tout ce qui s'allume et de tout ce qui se rallume au moment où il allait s'éteindre. Et n'oubliez pas que ces philosophes pensent, en fonction de cet axiome, que de rien, rien ne peut sortir. Nous sommes toujours dans cette totalité. Et donc, de même que l'eau, de même que l'air, de même que la terre, de même que le feu, de même le feu est ce qui ordonne, c'est-à-dire ce cosmos, il donne au cosmos son intelligibilité. C'est pourquoi il l'appelle le logos, car il rend intelligible ce monde changeant, ce monde multiple et mouvant, où si tout était pure multiplicité, ce monde serait un chaos inintelligible. Ouais. Donc le logos explique, est le principe explicatif de tout ce qui est en mouvement et change, à savoir que tout est un parce que tout est feu. Ouais. Seul le feu permet de comprendre l'unité de la totalité comme auto-constitué par la consommation réciproque des contraires. C'est une pensée très, très profonde. Hein. On a identifié la doctrine d'Héraclite, je l'ai dit, à un mobilisme universel en raison de ce renversement des contraires en lutte perpétuelle entre eux. Mais on voit en quel sens, donc il faut comprendre cette interprétation et la nuancer. Heidegger, sans lequel au XXe siècle, on ne peut pas penser, et par conséquent, contre lequel il faut penser si on veut vraiment penser, Heidegger a accusé cette interprétation en donnant le mot homo logos, le sens d'acte d'unir. Il voit dans le logos l'un unissant. L'un est un acte, d'unir. Donc le chemin de la pensée, dit-il dans son style sibyllin, est long et nécessaire parce qu'il doit conduire au simple. Et le simple, c'est-à-dire l'un, est à penser sous le nom de Logos. Et c'est ici que, vous voyez, il y a un rapport entre l'un et l'intellect, le Logos, qui est un rapport d'exclusion. Car l'un ne peut pas, en tant qu'un, s'intelliger sans se diviser, sans cesser d'être un. Et c'est pourquoi le Logos, l'intellect, est conçu comme étant à l'extérieur de l'un, comme une hypostase pour Plotin. Logos, donc, est à l'extérieur de l'un. Et donc, vous comprenez les conséquences théologiques que cela peut entraîner, les conséquences théologiques de la conception d'un Dieu qui est l'un et non pas je suis. C'est que le Verbe, le Logos, l'incarnation sera nécessaire. L'incarnation, comme la création, seront une sorte de chute de l'un, n'est-ce pas, en dehors de lui-même, pour ainsi dire, dans le multiple. Et donc, on ne concevra pas l'incarnation et la création comme l'œuvre d'un Dieu trine, mais donc comme le poids qui pèse sur la pensée, disons, en ce sens que le poids, la pensée d'ailleurs d'où le mot vient de peser, la pensée qui pèse, n'est-ce pas, entraîne l'un en dehors de lui-même, en dehors de lui-même. Et cette pensée plotinienne, néoplatonicienne, on la retrouvera chez Avicenne, pour qui l'intellect, justement, est le premier intellect qui apparaît en dehors de l'un. Avicenne est musulman. Pour un musulman, Dieu est l'un. Et donc, pour l'un, l'intellect ne peut pas s'exprimer que de l'extérieur de l'un, qu'à l'extérieur de l'un. Et l'intellect est donc cette visée de l'unité qui dépasse l'intellect et qui demeure dans l'intelligibilité, comme dans le non-être. Et l'un échappe toujours à toute détermination. L'unité est pure et nue. Vous comprenez, c'est très important de bien étudier ce rapport entre l'un et l'être, car c'est bien comprendre, c'est comprendre le sens de l'incarnation, de la création, ce que ne peut pas comprendre le Dieu du Coran, pour lequel l'un, en tant qu'un, ne peut pas s'associer quoi que ce soit. Et c'est aussi une pensée gnostique pour laquelle le monde est une chute dans la matière. C'est aussi une pensée plotinienne. Toute la chute, la dégradation, en dehors de l'unité pure et nue, il ne peut surgir que l'impureté d'un monde qui se dégrade, jusque dans la matière. Donc, comprenez que l'incarnation dans cet esprit ne peut être qu'une chute. Et personnellement, je réagis très vigoureusement contre l'idée d'une kénose intradivine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la kénose intradivine signifierait que va dans la logique, c'est une pensée qui est dans la logique d'un Dieu un, pour lequel l'unité ne peut être qu'exclusion. Et si on ne perçoit pas bien Dieu comme étant l'être avec sa vie propre, et qui nous dépasse, mais qui est l'être, et bien, et non pas l'un, et qui est un être qui est un tout en étant trine, et qui est un parce qu'il est, il n'est pas parce qu'il est un. Bon, pour cela, il faudra bien méditer. Mais comme vous le voyez, les conséquences sont à la fois théologiques et pratiques. Parce que les conséquences sont aussi morales. Et c'est pourquoi le manichéisme et le catharisme se rejoignent dans cette idée gnostique, finalement, qu'il y a trois catégories d'hommes, n'est-ce pas ? Les pneumatiques, n'est-ce pas ? Qui vivent au niveau de l'esprit, les pneumatiques, donc, les psychiques, qui vivent au niveau seulement de la raison humaine, ouais, et puis les uliques, ceux qui vivent au niveau seulement, uniquement du physique. Ouais. Or, l'unité l'anthropologie chrétienne réunifie ces trois niveaux de vie spirituelle incarnée. Quoi. La vie spirituelle est incarnée. Non. Bref, et cette incarnation est bonne. Et la vie est belle. Quoi. Le chemin de pensée, vous voyez, c'est le chemin qui essaye de conduire au simple, vous voyez, mais qui lui échappe. Hein. Le simple, c'est-à-dire l'un, qui est à penser, sous le nom de logos, mais qui échappe toujours à la pensée. Le simple est par définition sans complication, indivisible, unité pure et nue. Il s'ensuit que l'on ne peut lui attribuer un nom sans lui faire perdre sa simplicité, sans le compliquer. Ici, je pourrais ouvrir une petite parenthèse sur cette conception d'un Dieu un, et qui a été menée jusque dans ses conséquences ultimes par Nicolas de Cuse, 15e siècle, philosophe de l'un. Mais philosophe de l'un qui est un cardinal, qui est un chrétien, et qui donc doit intégrer la Trinité. Hein, la Trinité. Hein. Et alors il a été vraiment très judicieux et génial, mais son génie a été limité par cette métaphysique de l'un. Pourquoi ? Mais son coup de génie a été de dire ceci, et il va engendrer toute la pensée moderne, hein, et jusqu'à Hegel. Sa pensée a consisté à dire ceci, c'est que l'un n'est pas statique, l'un est vivant, l'un est actif, c'est un acte, oui, comme on vient de dire, un acte d'unir. Oui. Or, cet acte d'unir consiste à s'intelliger, mais cette intellection, pour un philosophe qui prend les mathématiques pour modèle de savoir certain, oui, est une intellection à l'image de l'égalité. 1 égale 1. Donc 1 égale 1. L'un, pour ainsi dire, se voit en face de lui-même, en s'affirmant lui-même. Mais comme on l'a dit, à partir du moment où de l'un, rien ne peut sortir de rien, et que de l'un ne peut sortir que l'un, cette égalité de l'un avec l'un ouvre un espace, une distance entre l'un et l'un. Hein, ne fût-ce que cette expression du signe égal, un égal un. Hein, ça creuse une distance entre l'un et l'un. Donc l'un n'est plus un, l'un n'est plus purement un. Hein, et d'où le coup de génie de Nicolas de Cuse, c'est de dire que l'un n'est pas simplement unitas et equalitas. Il est aussi connexion, c'est-à-dire retour sur soi, hein, c'est-à-dire donc lien, union. Donc l'un est union, l'un est un acte d'unir, de s'unir, de rester un acte. Mais cet acte, et voyez-vous, c'est là la limite de cette pensée, et qui se heurte théologiquement à un problème, c'est que cet acte est anonyme. Anonyme. Hein, cette unitrinitas, et sans l'être. Ce n'est pas l'être. Voyez. Ce n'est pas l'être. C'est l'unitrinitas conçu logiquement, finalement, comme une trinité d'unitas, d'équalitas, de connexion, de vie qui est un retour sur soi, voyez, qui assure donc la totalité, si vous voulez, de donc une immanence absolue. Mais, et c'est ce que ce qui attire, doit attirer l'attention, c'est que unitas, equalitas et connexio sont des termes préférés. Et Nicolas de Cuse le dit quelque part, même si Personnellement, sa foi n'est pas en jeu, disons ici. Ce n'est pas question de penser à la foi de l'homme, disons ici. Mais unitas, equalitas et connexio sont les seules expressions valables pour parler de cette unitas. Et que les noms de Père, de Fils et de Saint-Esprit sont des anthropomorphismes. Donc vous voyez un peu jusqu'où on peut aller. Vous saisissez l'importance de la distinction qu'il faut faire entre l'un et l'être appliqué à la théologie. C'est pourquoi donc la métaphysique, la philosophie première, comme dit Aristote, c'est la science, l'étude de ce qui est en tant qu'il est, de l'être. Non pas de ce qui est en tant qu'il est intelligible uniquement, c'est-à-dire connaissable, c'est-à-dire réductible au concept, réductible à la représentation. Donc l'être, n'est-ce pas, la réalité doit comprendre, doit être elle-même constitutivement intelligible. C'est pourquoi l'aristotélisme thomiste reste d'actualité en ce sens que, je l'ai déjà dit, la réalité ne se réduit pas à la seule forme, la substance, l'étant, l'être de l'étant, disons. Bon, ici, il faudrait faire beaucoup de nuances, mais peu importe. Ce qu'il faut, c'est retenir que l'étant, la substance, est toujours composé, ne se réduit pas à la forme, ne se réduit pas à la matière. La substance est composée elle-même intrinsèquement de matière et de forme indissociablement unies, de manière composée, non juxtaposée, vous vous souvenez, de telle manière que l'intelligibilité qui vient de la forme est inscrite dans la substance, puisque la forme est constitutive de la substance. La forme n'est donc pas dans l'intellect, et moins encore dans ce ciel intelligible de Platon, qui considérait que la forme était la seule réalité et toute la réalité, au détriment donc de la substance individuelle qui est réellement réelle, elle. Et que, comme je vous disais, ben, c'est Socrate qui meurt quand il prend la ciguë et non pas l'humanité. Bien, donc, donc le simple, par définition, est donc sans complication, indivisible, unité pure et nue. Et par conséquent, on ne peut lui attribuer quoi que ce soit, un nom même, sans lui faire perdre sa simplicité, sans le compliquer. Et le mot compliqué est composé du radical pli. Et le pli, l'un est replié sur lui-même, se complique, tout est en lui, n'est-ce pas ? Compliqué, mais il peut se déplier, Et donc, Nicolas Lecuze utilise ce recours à ces termes de complicatio et d'explicatio pour expliquer l'un comme un pli, qui se déplie et qui se replie. Conception que l'on retrouvera chez Hegel, la dialectique hegelienne. Hegel, c'est l'odyssée de l'esprit, qui se quitte lui-même au départ et qui se retrouve à la fin, quoi. Si vous voulez, voilà, pour faire bref. Donc, comment, en effet, peut-on désigner d'un signe, ce qui est indétermination pure, sans lui faire perdre sa simplicité, justement, sans le compliquer. Il faut donc le désigner, si on peut dire, car il est innommable, innommable. Alors que dans une philosophie, dans une métaphysique, dans une théologie qui intègre l'être, laissé per se subsistens, Dieu peut avoir un nom, l'être. Ce nom ne lui ajoute rien, il est l'être. L'être, n'est-ce pas absolument immuable, éternel, avec tous les attributs qui sont l'être lui-même, et qui n'ajoute rien à l'être. qui est... Bon, tout cela, on en parlera puisque notre étude s'intitule, si l'on peut le dire, « De l'un à l'être ». Et que pour le moment, nous sommes en chemin. Et nous ne parlons pas encore de l'être, mais de l'un. Et ce qui est un exploit de parler de l'un, puisqu'on l'a dit, l'un est au-delà de toute expression possible, on vient de le dire, n'est-ce pas? On ne peut pas penser l'un, on ne peut pas nommer l'un. Ouais. Et donc, l'un ne peut être condamné qu'à se dire lui-même dans le silence, quoi. Et, dans le silence, dans le mutisme même, vous voyez. Mutisme, puisque le logos ne peut que se dire lui-même, quoi. Il n'a rien à dire, quoi. Il n'a qu'à dire le rien. Ce qu'il est, enfin, il est le non-être, n'est-ce pas? Il est l'un qui exclut l'être. Et, il est ce qui dit toujours non. Souvenez de ce mot de Goethe. Hein, l'esprit est ce qui dit toujours non. Et, mais évidemment, l'esprit, c'est quoi? C'est l'indétermination pure. L'esprit, c'est quoi? C'est l'eau, c'est l'air, le feu, la terre. Ouais, c'est cet élément, c'est cette énergie, c'est quoi cette énergie? Enfin, tout est anonyme, et alors ça devient un mythe, quoi, et ça devient un mythe. Et donc, c'est pourquoi la parole d'Héraclite, le logos, dit Heidegger, nous permet d'avancer sur ce chemin. Ouais. On est en chemin ici, mais dans un chemin qui ne mène nulle part. Ouais. Nulle part, puisque le néant, l'un, c'est le néant. C'est le l'atopos, quoi. C'est l'utopie, c'est nulle part, c'est le non-être. Ouais. Donc nous sommes simplement en chemin, comme cet intellect d'Avicenne d'ailleurs, qui tournait vers l'un, ça sans jamais l'atteindre, puisque l'un demeure au-delà de l'intellect, dans l'inintelligibilité absolue. Donc il ne nous reste plus que un intellect comme pure intentionnalité, tourné vers, ouais, tourné vers, ouais, et qui... pour ainsi dire, s'épuise à intelliger, et n'ayant d'autre chose à intelliger finalement que lui-même. Ouais. L'intellect s'intellige, ouais, pour Avicenne, mais pour s'intelliger, il a besoin, il fait naître un autre intellect qui l'intellige. Ouais. Et cet autre intellect qui intellige le premier intellect est intelligé lui-même par un autre intellect. Et c'est ainsi qu'on peut concevoir une infinité d'intellects qui s'intelligent l'un à l'autre dans une sorte de hiérarchie à partir d'un premier intellect. Mais Avicenne, lui, s'arrête au dixième intellect, un chiffre peut-être symbolique, le 10, c'est un peu que l'on peut prolonger sans cesse, enfin bref. Et donc ce dixième intellect, pour Avicenne, c'est l'intellect agent. Actif, c'est-à-dire celui qui va produire, va descendre, va s'épuiser, il s'épuise tellement à intelliger, il est tellement épuisé à intelliger, là. Les intellects s'épuisent à s'intelliger les uns les autres, voyez-vous, comme une sorte justement d'énergie, voyez, qui s'épuise, et qui, dans le dernier intellect, affaiblit, voyez, n'a plus le moyen de s'intelliger lui-même. Voyez. Alors, il intellige... Il intellige, il ne peut plus s'intelliger lui-même et il tombe en deçà de lui-même, voyez, dans la matière. Voyez. Et c'est comme ça que l'intellect actif, agent, va devenir, va expliquer pour Avicenne l'apparition du monde, voyez, la création du monde matériel, physique. Voyez. Mais comme vous le voyez, cette création apparaît comme une chute. Hein, fatale et comme une nécessité même de la descente hors de l'un à travers cet intellect qui se multiplie en une multiplicité d'intellects et qui aboutit à l'épuisement de cette force de s'intelliger pour tomber en deçà de toute intellection possible dans la matière opaque et qui va elle-même tomber donc dans l'opacité du multiple et sans retour. Voyez. À partir de ce moment-là, mektoub. Il faut espérer que il n'y a plus qu'à espérer ce en quoi on peut espérer, quoi. C'est-à-dire en quoi c'est la boîte à Pandore, quoi, qui s'ouvre. Donc pas de retour. Voyez. Donc voyez là, ici donc le logos, donc, c'est ce qui en deçà de l'un conduit à l'un sans l'atteindre. Et sans l'atteindre, et il se multiplie en s'efforçant de l'atteindre, si l'on peut. Voyez. Alors donc, Héraclite nous dit, ceux qui ont entendu le Logos sont d'accord que la sagesse, c'est un et tout. Et il y a une totalité de l'unité, et qui exclut tout ce qui n'est pas elle. Hein, tout ce qui n'est pas elle. C'est pourquoi cette idée d'une création qui serait une chute hors de l'un est une idée qui dépend de cette conception d'une unité qui est exclusion, rejet de tout ce qui pourrait s'ajouter à elle. Ici, on tombe dans la mythologie. Donc, que dit le Logos ? Héraclite nous dit, le Logos dit, tout est un. En vanta. Ce fragment, donc, est clair. Mais, il est lourd de questionnements. Car, l'un comme acte d'unir, oui, et union, un acte d'unir dans le silence, oui, au-delà de toute parole. Et donc, une parole viendrait en nommant l'un, en détruire l'unité, oui, ne peut pas l'atteindre. Oui. Et la parole, ce serait pour l'un une chute. Oui. Et là, nous sommes encore dans une conception gnostique. Oui. Pour le gnosticisme, la parole, c'est briser la 6G, oui, le silence éternel. Oui, le silence éternel, n'est-ce pas, de l'un. Oui, c'est donc l'important, c'est l'intérêt que nous avons à méditer sur la différence qu'il y a entre une philosophie de l'un et une philosophie de l'être, car l'une et l'autre fondent deux théologies totalement différentes. Dans cette deuxième partie consacrée à Héraclite, je vais insister sur la lecture que fait Heidegger de Héraclite, afin de comprendre aussi la pensée contemporaine qui en est issue. Donc depuis Héraclite, Logos a été interprété différemment, comme ratio, comme verbum, comme loi du monde, comme ce qui est logique, comme la nécessité de la pensée, comme le sens, comme la raison. On voit donc la nature polysémique, ce terme de logos. Autant d'expressions qui veulent, dans le cadre de cette pensée de l'un, qui veulent nommer l'innommable, qui précède de l'un et qui vient de plus loin que tous les noms. Donc, l'un est au-delà de ce que l'on peut en dire. De telle manière que nous allons voir comment, dans cette conception, on va s'enfermer dans le langage. Et dans le langage, comme un système de signes, quoi, qui renvoie à des signes, un langage qui n'ouvre pas sur la réalité. Un langage qui, comme on le verra avec Saussure, se distinguera le signifié du signifiant, mais où le référent sera le signifié lui-même, non ? C'est-à-dire que les mots renvoient aux mots, les signes aux signes, mais ils ne renvoient pas à la réalité. Et on verra dans un contexte où, justement, la réalité nous échappe, puisque cette réalité qui est visée finalement, ce n'est pas l'être en tant qu'il est, mais c'est un reflet de l'un qui n'est pas. Le monde apparaîtra comme un miroir brisé dans lequel l'un va se refléter diversement, vous voyez, mais totalement, puisque dans chaque éclat de ce miroir brisé, le soleil se reflète parfaitement, vous voyez, mais ces éclats sont divers, sont différents, et sont plus ou moins égaux, ils sont plus ou moins grands, et donc l'un se reflète dans le monde comme dans un miroir brisé, totalement, il se reflète totalement dans chacun de ces éclats, mais plus ou moins, plus ou moins, mais l'un est sans l'être, l'un est sans l'être. Ouais. Cela vous rappelle le titre d'un ouvrage célèbre de Jean-Luc Marion, hein, Dieu sans l'être. Ouais. Pourquoi Dieu est sans l'être? Parce qu'on ne parle pas de Dieu en tant qu'être, mais de Dieu en tant qu'un. C'est ça qu'il faudra étudier. Et donc, l'un sans l'être se reflète dans un monde qui n'est que pur reflet, mais qui n'est pas l'effet d'un acte créateur, qui serait l'effet réel en tant qu'acte d'être d'un étant concret, précis, le monde, et sa diversité, la diversité des étants, où chaque étant est réellement. Vous voyez, encore faudra-t-il distinguer les différents étangs, mais peu importe, ici, si on considère l'étang en tant qu'il est, nous devrons distinguer ce qui le définit, son essence, ça, et son acte d'être, qui en fait un être réel, l'effet d'une œuvre créatrice, d'un être créateur. Tandis que dans une philosophie de l'un, le monde n'est qu'un reflet, une émanation, si on veut, mais un reflet de l'un qui n'est pas. Et donc, on ne peut pas parler d'effet, mais de reflet, si vous voulez. Alors, le logos, et ce chemin de pensée, comme dit Heidegger, qui conduit nulle part, puisque il s'agit de dire le rien, voilà. C'est le rien qui se dit dans le logos. Le logos voudrait atteindre justement ce rien qu'est le l'un sans l'être. Alors, Heidegger aime bien faire parler les mots à défaut d'atteindre le réel. Et il nous dit comment le logos vient de legein en grec qui signifie dire, parler. Et donc, il signifie à la fois dire et être dit. Et il se donne à des analyses philologiques dans lesquelles il se complaît et qui le conduisent à dégager des différents sens du verbe legein, hein, un sens donc principal qui est celui de rassembler, hein, et qui se retrouve dans le verbe latin legere, hein, et en allemand legen ou lesen, et lire aussi. Rassembler, qui signifie donc aller prendre et réunir, récolter ce qui est dispersé, comme le paysan qui rassemble sans parole le foin en botte qu'il laisse ensuite sur place. Bon, tout ça, je reproduis un peu l'analyse de Heidegger. Il faut que legein veuille dire, je cite, poser, présenter après s'être recueilli et avoir recueilli d'autres choses, pour permettre donc d'affirmer que le recueillement dans le repos exprime dans le silence l'indivisibilité innommable de l'un. Donc ce recueillement est l'œuvre du logos unissant, c'est-à-dire que donc c'est tout est acte d'unir, et nous sommes donc bien, nous nous retrouvons bien encore une fois dans cette totalité immanente. Bien, comme vous vous souvenez, la Pairone, le feu, la Pairone d'Anaximandre, le feu d'Héraclite sont immanents à un monde qu'ils constituent et reconstituent. en tant que principe. Et ici, le logos est aussi immanent à ce monde unifié et divisé. Et nous verrons comment, justement, Heidegger trouvera dans cette guerre des contraires de Héraclite une source d'inspiration construire sa pensée. Sa pensée de l'ère Aegnis, c'est-à-dire de cet événement qui est l'événement d'une double donation, d'une donation, voyez, d'un contraire à l'autre. C'est quoi ce rapport d'un contraire à l'autre qui s'exclut l'un l'autre, il faut que l'un disparaisse pour que l'autre apparaisse, il faut qu'il se désapproprie pour que l'autre s'approprie, mais les deux constituent l'ensemble. L'ensemble, une totalité, quoi. Et nous verrons comment la nature aime à se cacher en ce sens, elle n'est qu'un jeu, des contraires qui apparaissent, dont l'un apparaît quand l'autre disparaît, quoi. Quand l'un se montre, l'autre se cache. C'est ça, Heidegger a mis en exergue ce mouvement de retrait, de l'un, qui justement, en tant qu'unité pure et nue, ne peut pas se laisser contaminer par la pluralité. Mais en même temps, comment justifier la pluralité au moyen qui doit être une pluralité, Alors donc, on se rend compte que cette pluralité est une relation mutuelle des contraires qui affirme que, à l'origine de tout, il y a une donation. Une donation, on verra cela. Donc l'unité de l'un résulte d'un long cheminement, cheminement de la pensée, qui est un rassemblement. Le chemin se confond ici avec le but, en ce sens que le but c'est l'unité. Et l'unité c'est justement ce que on est en train de rassembler, grâce au langage, grâce au dire. Car legein signifie dire et parler, mais aussi s'étendre, c'est-à-dire se diversifier de façon multiple. Il dit donc en s'étendant, et il s'étend en se disant, ou en d'autres termes, il s'étend en s'unifiant. Et la distance crée le lien, quoi. Donc il faut trouver toujours dans l'opposition l'accord de ceux qui s'opposent. Il faut bien comprendre ce double mouvement des contraires, dans un jeu, que Héraclite appelle le polémos, la guerre des contraires, afin que le chaud soit chaud en étant du non chaud. Il y a une sorte de jeu, de cache-cache entre les contraires, n'est-ce pas, où reste uniquement la relation entre eux, finalement. Une relation qui est une opposition en même temps. Un rassemblement, donc, est une unification de ce qui est distinct. Et ce rassemblement n'est pas un résultat, mais l'acte même d'unir, de l'un qui est en train d'unir. L'un est un acte d'unir. Et cet acte se concrétise dans un dire, dans le langage, finalement, puisque le langage consiste en un système, on va dire, un système de signes qui doit rassembler, finalement, aussi, et d'une manière nominaliste aussi, il y a du nominalisme chez Heidegger aussi, où le langage doit se justifier une certaine logique, doit appeler une certaine logique. Il faut qu'il y ait une logique entre les mots pour qu'il y ait du sens. Et on s'aperçoit que le sens est créé. Le sens est créé par le langage. Le sens, l'intelligibilité, donc, n'est plus dans la chose, dans la réalité, comme dans l'aristotélisme que nous avons étudié, mais le sens est créé par... il y a une logique du sens qui naît dans le langage qui se crée, que nous créons. Donc là, on y reviendra. La parole, donc, parle, signifie d'unité unie. Le langage contribue à unifier un sens, le logos. Le logos est au service de l'unité, hein, de ce, mais en même temps, recueillir, rassembler, c'est plus qu'aller chercher des choses, en faire un tas, le rentrer, le mettre à l'abri. Heidegger parle toujours de manière énigmatique, ésotérique, c'est assez significatif d'ailleurs, puisque tout est langage, tout est langage. Et il s'agit de déceler le code, n'est-ce pas, qui nous permet de saisir la logique du sens, qui permet de comprendre ce que le langage veut dire. Et la récolte n'est pas ce dernier acte, la conclusion de la récolte, un acte supplémentaire. Elle est les choses déjà réunies. La conservation et la préservation font partie de la récolte. Nous sommes dans la, nous sommes ici dans une totalité immanente. L'unité elle-même, comme vous vous souvenez, la Péronne, on disait qu'il était aussi présent dans toute chose, qu'il attire à lui, et il est la source de toute chose et il attire toute chose à lui. Et bien de même ici, tout cela se fait dans l'immanence, dans la totalité. Voyez, il n'y a pas de transcendance au sens où, en dehors de où, au sens où, disons, il y aurait création ex nihilo, disons, ce qui est serait considéré comme être, parce que dans le cadre d'une philosophie de l'être, il faut bien expliquer dans quelle mesure les choses sont. Voyez. Ici, il ne s'agit pas de s'assurer que les choses soient et qu'elles soient ce qu'elles sont. Ici, il s'agit de réunir, de rassembler, de créer du sens, d'unifier et ainsi de faire agir l'un, de transformer l'un en un acte d'unir, ou de l'exprimer, pour s'abriter, comme il dit, contre le danger de la dispersion, hein, qui serait purement et simplement la perte de l'unité. Hein. Alors je cite ici, toute récolte requiert en même temps que ceux qui récoltent se rassemblent, unissent leur travail sous le signe de la mise à l'abri, et ainsi recueillis, alors seulement ils recueillent. La récolte exige d'elle-même et pour elle-même ce recueillement. Dans la récolte, recueil, s'affirme un rassemblement originel. Voilà, c'est toujours le style de Heidegger, hein, qui, pour rendre, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, quoi, hein. Tout simplement ici, là, le rassemblement originel est l'œuvre de l'un en tant qu'acte d'unir. Hein. Unir pour l'un consiste à s'abriter, pour se défendre contre ce qui le nie, c'est-à-dire la dispersion. Oui, on est toujours dans ce même mouvement de rapport entre l'un et le multiple, où l'un, à partir du moment où l'un n'est pas, voyez, l'un, l'être est pour lui un danger. Si l'être s'ajoutait à l'un, eh bien ce serait le multiple qui apparaîtrait, l'un et l'être, et donc l'être est de trop pour la pureté de l'un, il doit s'effacer, voyez, il doit disparaître. C'est, on retrouve un maximum. C'est pourquoi la récolte ne se tient aucunement du côté du dire, de s'étendre, se bornant à l'accompagner. Bon, elle se loge dans son fond, voyez, bon, c'est difficile. La récolte ainsi pensée ne se tient d'aucune manière au côté de l'étendre. Elle ne se borne pas non plus à l'accompagner, au contraire. La récolte est déjà logée au fond de l'étendre. Mais vous voyez, Heidegger, comme tout, s'enferme dans le langage, voyez, qui est seul la source du sens. Il lui-même invente un langage, une langue. Et après, il faut décoder, n'est-ce pas, ce qu'il dit. Ce qu'il dit. De telle manière que penser va devenir traduire. Il s'agira de traduire un système de signes par un autre système de signes dans un autre système de signes. Donc, on traduit. Penser, c'est traduire. C'est ce que le Heideggerien, un Derrida, à sa manière, avancera, ouais, développera. Donc, Heidegger comprend que la multiplicité sans unité est pur chaos, mais c'est la philologie qui lui vient en aide pour souligner, pour sauvegarder l'unité, en recourant au legein, grec, au legen, allemand, pour dire que nous avons à cœur ce qui est étendu devant nous dans la multiplicité, et donc qu'il importe de conserver les choses dans l'unité de leur rassemblement, l'étendre, c'est-à-dire le legen, le legein, l'unir, le dire, se dresse comme un barrage contre la dispersion qui, sans ce legein, s'étendrait et en sombrant dans le chaos d'une multiplicité, d'une division et sans fin, toujours la même logique. Dans cet acte d'unir, de l'un, ne s'est jamais lui-même exposé à la dispersion, c'est-à-dire à sa négation, précisément, parce qu'il unit toujours. Oui, on est toujours dans cette immanence, cette double donation, qui est finalement ce jeu, ce jeu des contraires que Heidegger assimile à sa manière de penser, qui unit en se distinguant, qui s'oppose en s'unissant, en s'accordant, et qui ne s'accorde qu'en s'opposant. Et c'est-à-dire qu'il faut que l'un se cache pour que l'autre paraisse. Donc une pensée difficile, obscure, comme celle d'Héraclite, on pourrait dire aussi Heidegger l'obscur. Donc tout cela pour parler de cette unité comme acte unifiant de ce qui s'étend, s'étale dans la multiplicité. Et donc tout doit être rassemblé pour former un sens, mais en s'enfermant dans le langage. C'est le langage, puisque vous vous souvenez que l'intellect, le logos, ce qui intellige, est tourné vers l'au-delà, vers l'un qui est au-delà de toute intellection possible, vers l'inintelligible, vers ce dont on ne peut pas parler, vers l'indicible, au sens où il n'y a rien à dire, si ce n'est que c'est le rien qui est à dire. C'est le rien qui est à dire. Et tout ce jeu, et c'est pourquoi la pensée contemporaine vraiment sombre dans l'inintelligibilité. Si vous ouvrez un livre, Heidegger lui-même ou même Lévinas, ça vous tombe des mains. C'est illisible, parce qu'ils inventent leur langage. Ils s'enferment, ils doivent créer le sens. Ils ont tourné le dos à la réalité, quoi. Ils ont tourné le dos à la réalité, mais ça c'est la c'est la rançon de cette modernité qui, depuis Nicolas de Cuse et depuis Descartes, a réduit la philosophie à une philosophie de la connaissance qui ne saisit plus la chose en soi telle qu'elle est dans la réalité avec son intelligibilité. Elle construit, elle produit le sens, elle produit la forme a priori de l'entendement pour Kant. Vous voyez, c'est elle qui produit l'intelligibilité. Mais je ne connais pas les choses en soi. Voyez. Les choses, ce n'est pas ce dont je parle. Voyez. La chose demeure dans l'obscurité de l'inconnaissable, parce que ce que je connais, ce n'est que ce que je connais. C'est-à-dire que ce que je produis conceptuellement à travers les formes a priori de mon entendement, formes qui sont donc dans l'entendement et non pas inhérentes à la chose, et donc source d'intelligibilité qui se trouve dans la chose elle-même et non pas dans l'entendement. Voyez.
Est-ce qu'on peut parler de réalité conventionnelle?
Alors, c'est-à-dire ici, on touche la notion de nature, c'est-à-dire que la nature, c'est en effet ce qui fait qu'une chose est comme elle naît, quoi. On naît comme on naît, E-S-T-N-A-I-T. Il y a une nature, nascor, natus, la nature, c'est devenir ce que l'on est. Et l'être, c'est justement le fait de ne pas pouvoir être autre chose que ce que l'on est, quoi. Et la convention... La convention, c'est ce qui pose le sens, c'est ce qui fait que la chose est construite par le système, par ma conception des choses. Enfin, je veux dire, la chose est réduite à sa conception, à sa représentation. Vous voyez, souvent, je parle de, je cite Magritte, le peintre Magritte, non, il dit, je suis, qui oppose la, qui crée, qui fait une belle pipe, n'est-ce pas? Et il peint une belle pipe, et puis il dit en dessous, ceci n'est pas une pipe. Oui. Parce qu'en effet, c'est pas une pipe, c'est la représentation d'une pipe. Eh bien, pour la modernité, la réalité, c'est la représentation. Le concept ne renvoie pas, la connaître, ce n'est pas se servir d'un concept pour saisir une chose et le sens d'une chose et son intégrité. Non, connaître, c'est connaître le concept. Ce n'est pas connaître au moyen du concept. La philosophie moderne, donc, est une philosophie qui enferme le sujet, qui est une philosophie du sujet, qui enferme le sujet en lui-même dans la construction de ce qu'il connaît, de telle manière que ce qu'il connaît est l'objet construit par l'entendement. Jamais la chose en soi. Donc il faut distinguer, vous voyez, la chose et l'objet. Ouais. Une chose en soi est inconnaissable parce que ce que je connais, c'est uniquement ce que mon entendement me permet de construire à travers les formes a priori, ouais, comme Kant, hein, vous connaissez Kant. Et donc je ne connais que les objets. Je ne connais que ce que je connais. Et donc quand, n'est-ce pas, je dirais que ce que je connais, ce sont des mots qui me permettent de désigner des choses arbitrairement, de telle manière que je pourrais dire ceci, c'est une chaise, je suis assis sur une table et j'écris sur une chaise, les mots sont conventionnels. C'est ça, le caractère arbitraire des mots. Allez, les mots ne renvoient pas aux choses. Et le langage est un système de signes arbitraires qui crée du sens. Allez, et donc, tout est mot, tout est signe. Allez, et je crée du sens. Le sens, donc, ben voilà. Et donc ici, voyez-vous, ici vous avez une racine, c'est là où vous vous rendez compte de l'importance de Duns Scott et de Occam, qui ont engendré Luther. Ouais. Et vous savez que pour Luther, la transsubstantiation, c'est une transsignification. Pourquoi ? Tout est signe. Tout est signe. La substance, il faut l'utiliser dans les mots. Ouais. Et le signe, c'est moi qui donne le sens aux choses. Et alors, vous comprenez que vous aurez tout de suite le charisme que ça devient. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on est fortement influencé par ce nominalisme. Et les théologiens ont fricoté un peu avec le nominalisme. Et ça donne ce que ça donne, n'est-ce pas? Le Saint-Sacrement est tout à fait relativisé. C'est un signe, quoi. C'est plus une présence réelle. Ouais. C'est un signe. Non, ouais, c'est très grave. Et donc tout cela, pourquoi? Parce que nous sommes dans une philosophie qui a renoncé à l'être, au réel, et qui part de l'unité, de ce platonisme, vous voyez, de ce néoplatonisme. Vous voyez, et c'est pourquoi toute l'histoire de la pensée, de la philosophie, est un rapport, un conflit entre Aristote et Platon. Platon, n'est-ce pas, dit non, la réalité c'est dans l'idée. Bon, encore Platon était réaliste. La réalité, pour Duns Scott, je n'y arrive pas. Je ne connais que le concept, que la représentation. Et bon, tout ça, il faudrait qu'on en parlera de toute façon. On étudiera Duns Scott, mais Duns Scott, pour moi, a été une catastrophe. Bon, heureusement, c'est bien heureux Duns Scott. Il nous a montré l'Immaculée Conception. Et espérons qu'il est en train au ciel de corriger les erreurs qu'il a commises sur Terre. Bon, donc... Je suis assez sévère avec Duns Scott. Duns Scott, c'est une catastrophe. Alors, je partage cet avis avec un grand collègue, André de Mural, professeur à l'Université de Genève, un grand médiéviste. Bon, aujourd'hui à la retraite, mais il parle toujours.
On a entendu dire que Einstein a essayé de réconcilier, enfin de relire la phénoménologie à la lumière de
ouais.
Cette loi.
Oui, oui, oui.
Selon ce que vous dites, c'est un peu difficile déjà.
C'est difficile. C'est difficile. Mais bon, enfin, bon, là, je connais pas. J'ai pas étudié Edith Stein parce que justement, bon, fait pas partie de mon horizon de réflexion. Mais bon, mais en même temps, c'est une tentative héroïque aussi. Et il faut le faire. Et il faut voir un peu tout le bien qu'on peut tirer de la phénoménologie. Mais vous comprenez, la phénoménologie, c'est quoi? La phénoménologie, c'est Husserl. Et Husserl, qu'est-ce qu'il nous fait là? Après Hegel, Hegel n'a fait que réaliser l'histoire complète de l'histoire moderne de la pensée, mais il enfermait la pensée en elle-même. Bon voilà, le sujet et l'objet s'identifient, Ouais. Mais attention, la substance, pour lui, c'est toujours du conçu, du conceptuel. On est toujours dans l'ordre de l'esprit. au sens conceptuel, au sens, vous voyez, on a perdu de vue déjà, on est dans la représentation. Vous voyez. La substance, ce n'est pas l'oussia aristotélicienne de ce qui est réellement et donné empiriquement de telle manière que je m'interroge sur une réalité individuelle, enfin Socrate c'est Socrate, bref, tout ça c'est toute la philosophie difficile de l'être aussi, mais bon, peu importe. Donc faisons ici un petit résumé. Donc Hegel, n'est-ce pas, c'est l'esprit absolu qui se rejoint, enfin c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'unité, hein. L'unité, c'est le philosophe de l'art aussi, c'est du plotinisme, c'est de l'immanentisme. Vous voyez, l'immanentisme, c'est ce qui ne renvoie qu'à soi, ne renvoie qu'à soi, vous voyez. Et l'histoire de l'esprit absolu, c'est l'histoire de la reconstitution de soi par soi, n'est-ce pas, sous justement l'effet d'une énergie, justement, mystérieuse, n'est-ce pas, qui anime l'esprit, bon, peu importe. Après Hegel, on n'a fait que réagir contre lui. Et Husserl, un moment important, après Kierkegaard, après beaucoup d'autres auteurs, Husserl, lui, nous dit, bon, maintenant, mon cher Hegel, c'est fini cette histoire d'identité entre l'idée, le sujet et l'objet. Non, maintenant, le sujet, c'est pas l'objet, l'objet, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la conscience en tant qu'elle est conscience de quelque chose. Intentionnalité de la conscience. Ouais. Et l'objet, c'est ce qui se présente à la conscience en tant qu'il se présente à la conscience. Ouais. Et donc, l'inconvénient aussi de cette phénoménologie, c'est que je ne fais pas l'expérience empirique des choses. Je ne fais l'expérience que de ce qui est un vécu de conscience. Vous voyez pourquoi aujourd'hui la Befindlichkeit, l'émotion, l'émotivité, le sentiment, le vécu, on tombe dans un vécu subjectif terrible, dans une subjectivité vraiment qui devient presque maladive, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que ce vécu est un vécu de conscience. Ce n'est pas un vécu incarné, quoi, vous voyez, un vécu par toute la personnalité qui remet en question l'unité de la personne humaine, qui est une unité de corps et d'âme, d'esprit, de sens, etc., intégré, quoi. Et sinon, vous voyez, le vécu de conscience. Bon. Alors, il y a là-dessus Heidegger qui arrive et qui dit, ah, mon cher Edmund, merci, tu nous as enfin débarrassé de Hegel, tu nous as libéré de cette identification totalitaire, étouffante, où le sujet ne se différencie plus de l'objet, tout ça. Alors, moi, ça y est, maintenant, c'est fini, je t'ai compris, mais le sujet, moi, ça ne m'intéresse plus. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est plus tellement tant la conscience en tant qu'elle est consciente de quelque chose. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'objet en tant qu'il se présente, indépendamment de toute conscience à laquelle il se présente. Et, ah, mais alors donc, maintenant, il s'agit de se rendre compte que l'objet n'est pas l'objet conçu par un sujet. Je renvoie dos à dos sujet et objet. Je reste avec la notion de ce qui se présente en tant que cela se présente. Et c'est ici que Heidegger renoue avec une certaine métaphysique, entre guillemets. Car pour lui, maintenant, il s'agira de comprendre ce que le sens de cette présence, de ce qui se présente. Vous voyez, c'est quoi ce qui se présente, voyez, c'est pour lui. Alors il va parler justement de cette présence du Dasein, de l'être là. L'être là, le Dasein, l'être là. Ça se trouve là, tiens, le Vujud encore, on retrouve le Vujud. L'existence, c'est là. Voyez. Mais alors attention, le problème avec lequel il va se trouver, c'est que le problème auquel il va se heurter, c'est que cette présence de ce qui se présente indépendamment de la conscience, donc indépendamment de tout ce qui pourrait rendre intelligible ce qui se présente là. Et ce qui se présente là, donc, désormais, est sans essence, voyez, sans intelligibilité. Sans qu'on puisse comprendre quoi que ce soit de cette chose-là présente, qui est jetée hors de toute intelligibilité, de tout essence, qui pourrait déterminer, définir, encadrer, enfermer dans une définition, quelle horreur. C'est pourquoi pour lui, l'homme n'est plus un animal rationnel, définissable. L'homme est hors raison. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ça va ouvrir tout cela à des conceptions aujourd'hui, le transhumanisme, le spécisme, enfin toutes ces histoires, parce qu'il n'y a plus rien de définissable. L'homme est jeté dans un monde absurde, indépendamment de toute signification. Donc l'essence du Dasein, dit Sein und Zeit dans le grand ouvrage de 1927, Être et Temps, il dit l'essence du Dasein, mais quand il dit l'essence, en allemand c'est Wesen. Wesen, Dasein ist Existenz. Donc l'essence du Dasein est d'exister. Mais attention, l'essence, ça veut dire, c'est Wesen. Et Wesen, ça veut dire rendre présent. Ce qui rend présent. Et la Wesenheit, c'est la présence. Voyez. Alors, donc, ce qui rend présent, ce qui fait le Dasein, c'est ce qui le rend présent. C'est ce qui le rend présent, c'est ce qui le jette, le projette en avant de lui-même, en dehors de tout sens, de toute essence, voyez, et donc en dehors de toute signification, dans un monde absurde. Donc, vous voyez, déjà, vous sentez le mot d'exister comme sortir hors d'eux, voyez. Et cette présence va devenir ce qui se présente à partir d'une donation. Et c'est pourquoi il va exploiter l'expression allemande. Il y a, en allemand, ça se dit « es gibt », cela donne. Voyez. Et donc, il va montrer comment, puisque donc, comment cela se présente en se donnant là. Voyez. Il faut bien qu'il y ait quelque chose, quelqu'un qui donne. Voyez. Et c'est ici que l'héraclitéisme rentre en jeu. Voyez. Puisque vous vous souvenez qu'un contraire appelle l'autre, mais en même temps le rejette. Voyez. Et donc, l'existence, le Dasein, est un événement, le fruit d'une donation, d'un arrivé là, et qui est le fruit d'un rejet de son contraire. Enfin, c'est le même, il applique la même dialectique, si on veut, d'Héraclite, qui dit que les deux contraires sont en guerre, l'un contre l'autre. Et lui, il va dire, n'est-ce pas, que c'est la guerre, c'est entre l'être et le temps. Voilà, l'être et le temps, tout ça, c'est obscur aussi, parce que c'est quoi l'être pour lui, ouais, c'est ce qui se trouve là, c'est l'être de l'étang, mais l'être qui se présente là comme résultant d'une donation, d'un don. Es gibt, il y a quelque chose qui est donné là, ouais, et tout ça vient-il, tout cela, ouais, alors, évidemment, donc, je ne peux pas dire que ça vient de rien, puisque rien ne peut sortir de rien. Et c'est là où Heidegger renoue plus ou moins consciemment avec le plotinisme, avec la philosophie de l'un, parce que l'un, c'est justement ce qui unifie, c'est l'acte d'unir. C'est donc l'acte d'unir ce qui est opposé, ce qui se sépare. Et donc ce qui est là est projeté, jeté en avant de quoi ? En avant de ce qui le jette. Et l'événement, l'Ereignis, c'est le résultat d'une désappropriation. Et c'est le résultat d'une désappropriation, c'est une appropriation, c'est le propre de ce qui advient là, mais qui advient là en ayant rejeter ce d'où il vient, d'où il provient. Ouais. Bon, donc il y a, voyez, une relation, tout est relation, il n'y a pas de substance, quoi. Voilà la question. C'est pourquoi aujourd'hui la théorie des quantas, du quanta, alors là, vous savez, les quantas en science, la théorie des quantas vient absolument illustrer cela, quoi. Donc tout est relation, voyez. Mais tout est relation et dans le vide, quoi, et dans le vide. Parce que les quantas, c'est cette énergie, enfin bon, je ne peux pas développer cela, évidemment. Non, je ne suis pas physicien, mais enfin, ce que je sais, c'est que, n'est-ce pas, deux particules entre elles sont en relation entre elles, parce que il y a dans chaque particule quelque chose qui renvoie à l'autre particule. Voyez. Donc, la réalité est composée de deux particules qui sont en relation mais en s'opposant. Elles ne sont jamais ensemble, voyez. Et donc, il y a une énergie, voyez, une énergie qui fait qu'elles se rapprochent, qu'elle se repousse, n'est-ce pas? Mais entre ces deux particules, il n'y a que du vide, quoi, que du vide, vous voyez? Et donc, il n'y a pas de substance, rien n'est substantiel. Tout se passe dans ce vide. Et finalement, vous voyez, c'est l'énergie qui devient le dernier mot de cette pensée, de cette philosophie. Et donc, tout est relationnel, tout est un rapport de rapport. Enfin, malheureusement, je vous dis ça très rapidement, parce que tout cela supposerait des heures d'enseignement, quoi, hein. Mais pour aller à l'essentiel, voyez-vous, donc il faut bien comprendre tout ça. C'est le refus de l'être. L'être est de trop. L'être est sans cesse rejeté. L'être est comme une balle qu'on se renvoie, quoi. Vous voyez, que deux particules se renvoient l'une à l'autre, quoi. C'est une balle qui se renvoie dans un espace vide. et qui permet de relier ce qui est séparé. Ouais, voilà, ce qui, la distance est ce qui permet de relier. Quoi. Tiens, voilà, ouais, c'est vrai. Il faut que, vous voyez, dans l'unité, il y a un creux, une distance, un aspect qui se crée et qui oppose l'unité à l'unité. Vous voyez. Et c'est pourquoi on s'en sort pas, quoi. On s'en sort pas. Oui, c'est le néant qui néantise, quoi. Et, c'est pourquoi la question, c'est vraiment la question de l'être, quoi. Hein, qu'est-ce que l'être, dit Aristote, sa métaphysique, c'est le vrai problème du philosophe. C'est qu'est-ce que l'être, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, l'être de ce qui est, oui. Ce qui est, l'être de ce qui est, vous voyez. L'essence et l'être, vous voyez. Bon, écoutez, aujourd'hui, on a un peu, aujourd'hui, on s'est un peu amusé. Aujourd'hui, c'était plutôt, n'est-ce pas, un peu chaotique, tout cela, parce qu'on a voulu un peu aller, on a voulu aborder un philosophe obscur, plus obscur encore qu'Héraclite, en voyant dans quelle mesure ce philosophe obscur a pu rendre plus clair un philosophe encore plus obscur.